Voilà, nous sommes réjouis d'être ensemble devant le Seigneur et de l'exalter, de glorifier son nom, de recevoir sa parole pour qu'elle pénètre nos cœurs, nous édifie, nous fortifie, nous sanctifie, qu'elle fasse son œuvre de grâce en nous, puisque c'est une œuvre de grâce. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu et la parole de Dieu est là pour nous communiquer, nous transmettre la grâce, même lorsqu'elle nous demande des efforts en quelque sorte à faire. Je prends tout ce qui concerne ce matin le revêtement, se revêtir. Revêtez-vous, dit le Seigneur. Et pour se revêtir, il est question d'abord du combat spirituel. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, enfin c'est par là que je commence, mais en réalité, c'est pas par là que ça commence. Mais je lis d'abord ce passage. Chapitre 6, donc, au reste, verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout les saints. Voilà, il est question clairement d'un combat ici, d'un combat avec des armes contre une puissance ennemie, un combat de résistance. Il s'agit de tenir ferme et de résister à l'ennemi, mais par des moyens spirituels. Donc déjà là, on peut se tromper en engageant un combat qui soit à la nature, à la manière, on peut dire, des guerres de ce monde, hein, où il faut faire un gros effort pour aller et remporter la victoire sur l'ennemi par les moyens que nous nous sommes mis nous-mêmes à notre disposition. Tandis que ici, il s'agit d'accueillir et de prendre les moyens de Dieu. Puisqu'il ne s'agit pas d'autre chose que de la foi, la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut, l'espérance du salut, et faire par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, par l'esprit. Donc les moyens spirituels, les réalités de spirituelles, à garder, à employer pour faire face à celui qui veut nous déstabiliser dans la foi, nous faire tomber, nous faire chuter. Et voilà, donc il s'agit d'un vrai combat, d'une vraie résistance à opposer à l'ennemi, mais par des moyens spirituels et par des actes de confiance en l'œuvre de Dieu, en l'œuvre accomplie par notre Seigneur en notre faveur. Il y a deux passages qui sont proches de celui-là. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 6 à 8. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Foi, charité, espérance du chalut. Les trois vertus chrétiennes, à la fois l'espérance et l'amour, se retrouvent ici présentées comme un moyen de résistance à ce qui peut nous faire dormir spirituellement et nous conduire à des mauvaises œuvres, puisqu'il s'agit aussi de s'enivrer. Et puis Romains chapitre 13, verset 12, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Encore une fois, il est question d'armes, donc de combat, d'être actif pour faire face à la puissance ici des ténèbres, revêtir les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors dans ce dernier verset, il y a la clé de tout. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est par là, en fait, que tout commence. Pour avoir les armes, il faut d'abord recevoir le Seigneur et le fruit de sa connaissance. Sinon, nous pouvons mener tous les combats que nous voulons, nous ne remporterons aucune victoire. L'apôtre dit aussi dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, et il y a un fruit à cette lumière qui est venue en vous, qui vous a transformé, c'est la bonté, la justice, la vérité. Et ce fruit, cette nouvelle façon d'être, devient une arme contre la puissance ennemie. Il faut d'abord avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, être devenu lumière, avoir ce fruit de la lumière qui se manifeste en nous, et à ce moment-là, on peut engager le combat contre la puissance ennemie. Le combat capital dans la vie du témoin, pour ne pas être déstabilisé par la puissance ennemie, ne peut se mener qu'avec ce que nous avons reçu du Seigneur. Impossible autrement. Donc c'est la première chose que nous devons travailler, on peut dire. Eh bien, c'est notre nature. Comme indiqué en Éphésiens chapitre 4, versets 6 à 24. Non, pas 6, parce que ça ferait long, ça, comme passage à lire. Éphésiens 4, 6 à 24, ça fait long. Non, c'est à partir de verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà donc ce qui nous est apporté ici. Ne plus marcher comme les païens, parce que les païens, ils ont une intelligence qui a été obscurcie, ils ne connaissent pas la vie de Dieu. Ça, c'est la première chose. Les pensées de l'homme naturel, le païen, sont vaines. Elles durcissent son cœur au point qu'il ne peut plus voir les choses et le monde comme Dieu les voit. Et de ce fait, il dérègle sa conduite. Il ne voit plus le monde, la vie, les relations telles que Dieu les voit, et donc il dérègle sa conduite. Il est aveuglé dans sa conscience, dans ses pensées, dans son intelligence. Et le chrétien, c'est celui qui justement a rencontré Christ et qui l'a reçu. De ce fait, l'apôtre emploie l'expression « vous avez, ce n'est pas ainsi, dit-il, que vous avez appris Christ ». Vous avez appris Christ. C'est intéressant de réfléchir à cette expression. C'est-à-dire que la vérité qui est dans la nature de Jésus nous est enseignée pour faire partie de nous-mêmes. Apprendre Christ, apprendre la leçon de sa vie, apprendre la leçon de sa nature. Vous avez appris Christ. Dans quelle mesure avez-vous appris Christ? Apprendre Christ, c'est permettre à sa nature de prendre la place en nous. Nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons appris à le connaître. Maintenant, nous devons apprendre sa vie en nous, son caractère, sa façon d'être, sa façon de réagir, sa façon de penser, sa façon d'être en relation. Mais voilà, la place est occupée. Il faut donc faire de la place, enlever ce qui est du vieil homme pour ce qui est de Christ puisse se mettre bien en place en nous. Et là, il faut justement cette étape intermédiaire puisque tout commence par des pensées qui ont été obscurcies. Eh bien, l'apôtre nous dit, il faut être renouvelé dans nos pensées, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. À partir du moment où vous êtes renouvelé dans votre intelligence, dans votre esprit qui est en contact maintenant avec le Saint-Esprit de Dieu, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à vous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres et à laissez la place à l'homme nouveau, qui viendra sans difficulté vous revêtir, parce que c'est tout simplement la place qui lui a été assignée lors de votre baptême dans la foi en Jésus-Christ. Vous avez, dit l'apôtre aux Galates, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors il y a encore en vous le vieil homme, les manifestations du vieil homme qui sont là, mais si vous les retirez les manifestations de ce vieil homme par une intelligence renouvelée, eh bien le revêtement de Christ, il est là tout près. Vous allez revêtir Christ, que par la foi vous avez déjà revêtu. Dans Colossiens 2:11, c'est l'équivalent. En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. C'est cela, revêtir Christ, être ressuscité en lui. lui qui est vivant éternellement. Notre foi en lui, notre baptême, nous place en Jésus-Christ, nous revêt de Jésus-Christ qui a la vie parfaite, qui a la vie nouvelle, qui a la vie sainte, la vie qui plaît à Dieu. C'est une réalité effective à notre baptême. Et l'apôtre continue donc dans cette épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui se renouvelle dans la connaissance, au fur et à mesure que la connaissance de Jésus-Christ nous pénètre, que notre esprit est renouvelé, alors, eh bien, nous sommes renouvelés et transformés dans la nature de Jésus-Christ. Mais vous voyez, ici, il y a en même temps ce qui est acquis. Vous êtes dépouillés. Dans Éphésiens, c'est « dépouillez-vous ». Mais dans Colossiens, c'est « vous vous êtes déjà dépouillés en mettant votre foi en Jésus-Christ ». Vous êtes déjà dépouillés et vous avez déjà revêtu l'homme nouveau. Mais cet homme nouveau que vous avez revêtu, il se renouvelle dans la connaissance pour que nous soyons transformés à son image. C'est par notre connaissance renouvelée, notre esprit, notre conscience qui est mis en contact de l'homme nouveau qui est Jésus-Christ, que cet homme nouveau que nous avons reçu va se former, va se manifester, va devenir efficace en nous. Par la proximité, la communion, l'écoute, si du moins vous l'avez entendu, hein, l'écoute de Jésus-Christ. Donc, finalement, se revêtir de Christ et de son caractère. Ainsi donc, chapitre 3, toujours verset 12, « Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, alors selon les versions d'entrailles de miséricorde ou d'autres sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, tous les caractères de Jésus. » Et puis au verset 14, « Mais par-dessus toutes ces choses, » ce n'est pas encore suffisant, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, ce n'est pas encore suffisant. « Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Dieu est amour, Jésus-Christ est l'amour de Dieu manifesté. Et c'est l'amour qui doit venir nous recouvrir en entier. Mais il y a déjà, au verset 12, « Revêtez-vous d'humilité ». Et effectivement, pour ne pas se croire des gens devenus supérieurs par la connaissance de Jésus-Christ, qui est quand même le Tout-Puissant qui vient habiter en nous, et qui pourrait quand même nous donner le sentiment, si nous sommes revêtus de lui, d'être totalement, d'avoir franchi un cap et puis d'être devenus des gens d'une nature différente des autres, eh bien, Pierre insiste, alors de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc c'est toujours dans une approche humble, dans une volonté de nous abaisser, que nous désirons nous revêtir de Jésus-Christ pour que la gloire soit celle de Dieu et non pas celle de l'homme, bien sûr. Donc, c'est tout cela, apprendre Christ. Apprendre Christ. Et l'apprendre tellement que finalement, c'est lui qui nous revêt, comme nous l'avons lu dans Romains 13, verset 14, « Revêtez-vous de Christ ». C'est lui qui finalement nous revêt. Alors quelqu'un qui est revêtu vraiment de Jésus-Christ, ben c'est comme si vous aviez en face de vous Jésus lui-même. Dans le rapport, dans la façon d'être, dans les orientations, dans les conseils, dans la sagesse, eh bien, si nous pouvons nous renvoyer mutuellement l'image de Jésus-Christ, combien nous allons progresser, combien nous allons être donc voilà, dans cette perfection divine, divine. Alors, tous les passages, bien sûr, parce que donc désormais la nature de Jésus nous caractérise, elle est devenue la nôtre. Et c'est vraiment ce que nous devons poursuivre. Nous ne pouvons pas nous contenter de rester ce que nous étions et que de toute notre vie, en quelque sorte, nous lamenter que nous sommes un pécheur imparfait, que, etc., etc. C'est pas le but de connaître Jésus-Christ, c'est pour être transformé à son image de façon concrète et réelle, et donc vivre en étant à sa ressemblance, en portant son image, et à travers son image à lui, l'image de Dieu qui se développe en nous. Bon, donc tous les passages cités sont en lien avec les mauvais comportements. Hein. Prenez au-dessus, en dessous des passages, vous allez voir tout ce qui concerne la mauvaise vie, en fait, du vieil homme. Hein. Donc, sauf Éphésiens 6, c'est un peu différent. Revêtir l'homme nouveau, c'est donc devenir concrètement quelqu'un qui ressemble à Jésus-Christ. Dans sa conduite, dans ses réactions, dans sa conception du monde, dans ses relations. Voilà, porter Jésus-Christ, être recouvert par Jésus-Christ, vivre selon son image. Et, dernier point, ce processus est impératif si nous ne voulons pas manquer la dernière étape. Parce que la dernière étape, il va s'agir aussi de se revêtir. Et ça, on la trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 9. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en vous, habite en vous, alors celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Vous allez revêtir l'immortalité qui est celle de Jésus-Christ. Mais cela ne peut se faire que si vous êtes vêtu. Si vous avez déjà revêtu Jésus-Christ dans votre être présent, dans ce que vous êtes, si vous êtes revêtu de Jésus-Christ, alors, d'abord, le décalage entre la vie de Jésus et la vie du monde, ben, il va être de plus en plus criant en vous. Et donc, ça va vous porter, comme l'apôtre Paul, en fait, de plus en plus. Alors, nous n'en sommes pas là, je crois. Mais quand même, pour l'apôtre, nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Ça lui devient insupportable de rester dans ce corps, parce qu'il est encore marqué par la mort, par la limitation. Et donc, il désirerait... Ben, ce n'est pas qu'il désire mourir. Non, nous ne désirons pas nous dépouiller, dit-il, mais nous désirons nous revêtir. Il désire être revêtu de la nature glorieuse, la nature parfaite, le corps spirituel qui nous attend et dans lequel il n'y aura plus aucun obstacle à la communion avec Dieu, avec notre Créateur et Sauveur. Mais il travaille dans cette espérance d'être un jour revêtu de la gloire de Dieu, de la gloire de Jésus-Christ, du corps céleste qui est prévu. Mais en travaillant à cette espérance, ben aujourd'hui, il cultive l'image de Christ en lui. Il se dépouille, se détourne de tout ce que la chair corrompue pouvait produire de mauvaises œuvres pour ne produire que les œuvres marquées par la bonté, la justice, la vérité, la grâce, la sainteté de Dieu. Voilà ce que nous voulons parvenir à la dernière étape. Commençons par le commencement. Commençons par véritablement revêtir Jésus-Christ aujourd'hui. Et pour revêtir Jésus-Christ, commençons par venir à lui, bien entendu, à confesser notre perdition, notre incapacité, et à nous remettre totalement et à nous plonger dans sa grâce. Et à ce moment-là, peut commencer le processus de revêtement complet jusqu'à ce que nous soyons prêts, selon ce que le Seigneur va donner à chacun et selon la grâce, bien sûr, qu'il accorde malgré nos manquements, malgré notre paresse, malgré voilà, tout ce qui fait que, nous n'avons pas encore parfois le vrai désir d'être revêtus de lui, mais que nous puissions quand même faire cette marche donc de progrès en progrès dans cette compréhension de Jésus-Christ et de ce qu'il peut mettre lui en nous comme vie nouvelle, comme caractère nouveau. Et là, alors nous pouvons engager le combat contre l'ennemi, nous pouvons lui résister, nous pouvons lui faire face, nous pouvons tenir ferme, parce que c'est l'Esprit de Christ qui agira en nous, qui nous donnera ses forces pour ce combat. Mais ne menons pas ce combat par notre propre capacité ou notre propre volonté, il est perdu d'avance autrement. Gloire à Dieu parce que, il y a cette instruction de l'apôtre, il y a l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, il y a ce que nous entrons, ce que nous recevons lorsque nous entrons dans la foi et que nous nous donnons à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et puis après, il y a ce que nous devons mettre en œuvre pour que vraiment Jésus-Christ soit celui qui conduise vraiment nos vies. Alors qu'il vous l'accorde et que vous puissiez rencontrer, vous rencontrer les uns les autres comme étant les reflets de la gloire de Dieu, comme étant ceux qui portent son amour, sa justice, sa bonté, sa vérité, et qu'alors, aussi, bien sûr, en voyant en face de nous quelqu'un qui est transformé à l'image de Christ, ça nous donne quand même plus envie nous-mêmes aussi de l'expérimenter. Tous ceux qui ont vu, qui ont vécu avec Jésus, les apôtres, ont été imprégnés de lui. Et si nous vivons en compagnie de frères et sœurs qui ont cette même nature de Jésus-Christ qui se développe en eux, je pense que nous allons être aidés grandement pour notre propre progrès. Amen.